Avec Tech Café, je sais que vous aimez vous informer sur la tech en podcast. Si vous voulez en savoir encore plus sur les technologies qui transforment positivement le monde, je vous recommande d'écouter le podcast Planète Tech de Bouygues Télécom Business, le partenaire de cet épisode. Le podcast est présenté par Jean Moreau, un entrepreneur dans l'économie circulaire qui enquête sur les entreprises porteuses d'initiatives technologiques au service de grands défis de notre temps, sur le plan environnemental, comme par exemple des capteurs pour mieux détecter les feux de forêt, mais aussi dans les domaines de la santé connectée, comment la télémédecine parvient à répondre aux problèmes des déserts médicaux. Des technologies qui font du bien à l'humain et à la planète. Je vous invite à aller écouter les épisodes de Planète Tech. Un nouvel épisode sort tous les 15 jours, le mercredi, dans l'application de podcast que vous utilisez déjà en ce moment. Et merci à Planète Tech de soutenir Tech Café. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, dans un épisode supplément sur le thème de la e-santé. Vous allez voir qu'on va avoir quelques épisodes avec différentes interviews qui vont traiter de la e-santé. On va donc pouvoir explorer certaines applications de la technologie à la santé avec, vous vous en doutez, une composante forcément un petit peu d'intelligence artificielle, mais pas que, vous allez voir. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve mon invité de cet épisode, c'est Barbara. Salut Barbara, comment vas-tu ?
Salut, ça va.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis après je ferai les présentations incontournables du podcast et puis on pourra échanger plus longuement, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, donc je suis Barbara, je suis directrice des opérations à l'INES. Et mon cœur de métier, c'est la pédagogie et surtout le numérique en pédagogie, parce que ça fait 25 ans que je l'utilise en formation.
En deux mots, parce qu'on va être obligé quand même d'être complet sur cette présentation. L'INES, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce que c'est ?
Oui, alors l'INES, de son nom complet, c'est Institute for Smart Health. C'est un institut qui a été créé en 2022 par le professeur Fabrice Denis. Qui voulait se donner pour mission principale d'accompagner les professionnels de santé et tous les acteurs de l'écosystème de la santé aux mutations qui étaient induites par l'arrivée du numérique et également et surtout de l'IA dans le domaine de la santé. Et il était parti pour ça d'un constat, d'un manque d'acculturation des professionnels à ces outils, d'un manque d'experts, d'un manque de formateurs. Et donc l'INES s'est construit comme ça, autour de ces missions-là, et la principale étant du coup l'accompagnement par plusieurs formes.
Merci pour cette synthèse. On va pouvoir donc échanger ensemble dans cet épisode. Juste avant qu'on puisse le faire, je rappelle ou j'informe les personnes qui nous écouteraient pour la première fois que Tech Café, c'est un épisode hebdomadaire qui vous parle de l'actualité des nouvelles technologies, pas forcément de la santé spécifiquement, bien entendu, hein, ça va être l'objet de nos épisodes hors série. Mais par contre, évidemment, habituellement, ces derniers mois, on a tendance à parler beaucoup d'intelligence artificielle. On ne parle pas que de ça, bien entendu, mais c'est une grosse composante de l'information. Donc, si jamais vous ne connaissez pas encore Tech Café, je vous invite à vous abonner. Et en fait, pour ça, c'est super simple. Soit vous allez dans votre app de podcast et vous cherchez Tech Café en deux mots et vous pouvez vous y abonner. Soit vous allez sur techcafé.fr et vous avez tous les liens qui vous permettent de vous abonner au podcast ou pour écouter même le podcast dans votre navigateur. Et puis, vous avez en plus sur techcafé.fr tous les liens qui sont mentionnés dans les épisodes. Donc voilà, si vous voulez aller creuser les sujets, c'est the place to be. Et puis, il y a un autre endroit aussi qui est particulièrement appréciable. C'est pour les personnes qui utilisent et qui connaissent Discord. Eh ben, on a un serveur Discord Tech Café. Le lien est également dans les notes de l'épisode et sur techcafé.fr. On y parle de plein de choses. On ne parle pas que de tech. On parle d'autres choses qui nous rassemblent. Donc, si vous voulez échanger entre vous et avec nous, rendez-vous sur Discord. Sans autre forme de procès, on va donc pouvoir échanger ensemble, Barbara. Donc, tu nous as présenté en quelques mots l'INES et puis tu t'es décrite en quelques mots. Je voudrais bien quand même qu'on puisse s'attarder un tout petit peu sur le pourquoi est-ce qu'il y a un déficit de formation dans le domaine du numérique auprès des professionnels de santé. Est-ce que le constat est simple et douloureux, j'allais dire, c'est que la tech, ça va plus vite que la santé?
Je ne sais pas si la tech, ça va plus vite que la santé, mais je pense que la tech, de manière générale, n'est pas tant enseignée que ça, quel que soit le domaine. Moi, honnêtement, j'ai eu de la chance de tomber dedans. J'ai grandi avec un ordinateur qui était une coquille vide dans ma chambre. Et donc,
C'était quoi
qui me
comme
servait.
ordi?
Oh, je ne sais plus du tout
C'est plus.
la marque. Je me souviens que j'avais le livre de programmation qui, à l'époque, était du basique, mais
OK.
auquel je ne connaissais absolument
Un
rien.
équivalent au TO8, un truc comme ça?
Oh,
Bon,
je ne sais
peu
plus du tout. Mais
importe.
en tout
Ouais.
cas, je jouais beaucoup avec sur des supports disquettes hein, dessus.
OK.
Voilà. Donc. Et surtout, en fait, moi, ensuite, dans mes études et dans ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas un parcours du tout linéaire, mais je pense que ça a été aussi finalement quelque chose qui m'a permis d'appréhender l'outil, c'est que j'ai fait un BTS compta début des années 90, à l'époque où il n'y avait pas de suite Microsoft, où il n'y avait pas les PC fonctionnaient sous DOS. Et donc, fallait quand même, c'était vraiment plus technique que maintenant, hein, il n'y avait pas tous ces outils auteurs. Et je me souviens de l'outil Tableur qui s'appelait Multiplan à l'époque.
Oui, tout à fait, ça me
Et
parle bien.
il y avait des raccourcis clavier pour faire les cadres des bordures. Et surtout, fallait faire des mini-algorithmes pour faire ces formules de calcul, etc. Donc, en fait, moi, j'ai appris à faire. Concevoir des petits algorithmes sur papier avant de les transposer sur l'ordinateur, sur le PC, et puis du coup, bah, à bidouiller avec cet outil-là, quoi. Et je pense que finalement, ça a été un peu un des fondements et qui fait que je comprends un tout petit peu le fonctionnement sans être, je ne suis pas du tout programmatrice, même si je bidouille un petit peu de code, mais voilà. Donc, j'ai eu la chance, du coup, je me dis, moi, d'avoir cette acculturation au numérique. Et la deuxième chance, je pense, que j'ai eue, c'est ensuite quand je suis entrée à l'université. On a eu une adresse email quand j'étais étudiante. Et puis, il y avait une salle d'info où on avait libre accès pour aller sur Internet, quoi. À l'époque où ça prenait un temps infini pour ouvrir une page et qu'on avait le temps de se faire couler un café. Donc voilà, et je pense que c'est comme ça, mais je pense qu'en fait, de manière générale, la tech n'est pas une discipline qui est particulièrement enseignée, ni enseignée pour ses usages dans quelques domaines que ce soit. Que ce soit la santé ou que ça soit la pédagogie, par exemple, enfin, qui est aussi mon autre domaine. Et du coup, donc pour finir sur cette histoire de formation d'acculturation, donc moi, à l'université, donc j'ai eu cet accès-là. À Internet, j'avais cette acculturation auparavant. J'ai souvent eu un ordinateur chez moi. Et puis quand j'ai fait sur la fin de mes études, donc quand on était encore en maîtrise, le mémoire qu'on faisait devait avoir une double composante de numérique qu'on n'appelait pas numérique à l'époque et linguistique parce que j'étais en linguistique. Donc en fait, ça a toujours fait partie de mes pratiques et de mes travaux de réflexion universitaire. Et du coup, j'ai conçu par la suite des cahiers des charges pour faire des cours utilisant le numérique. Et quand j'ai été formatrice, parce que j'ai été formatrice pendant 15 ans auprès de migrants, j'ai toujours emmené les personnes utiliser cet outil-là pour apprendre le français, qu'elles soient analphabètes ou qu'elles soient diplômées bac plus 5 ou plus. Donc pour moi, ça a vraiment toujours été un outil qui a fait partie de mes pratiques au quotidien. Donc pour moi, c'est juste une évidence. Mais voilà, regardez ce qu'il en est actuellement, ce qu'il en est même des enfants à l'école, collège, lycée. Ils l'utilisent pas plus que ça, et du coup, c'est pas non plus étonnant qu'il y ait un manque d'acculturation aussi en santé, en fait.
Et justement, j'ai le sentiment, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que les professionnels qui sont accompagnés par un ordre, par exemple l'ordre des médecins, ça doit être le cas, ont une obligation de suivre des formations. Alors, je ne sais pas si c'est le cas des médecins, d'ailleurs tu vas pouvoir me contredire ou m'infirmer, me confirmer plutôt, mais il me semble qu'ils ont une obligation de formation. Et effectivement, je ne sais pas si dans cette obligation de suivre des formations, il y a beaucoup de choses qui touchent au numérique, à la tech. J'ai le sentiment qu'effectivement, ce n'est pas forcément le cas. Ils vont être sur des formations qui touchent beaucoup à leur domaine d'expertise premier, mais la tech, qui pourrait être pourtant une source de facilitation, d'amélioration des services, n'est pas forcément très retenue dans les formations pour les professionnels de santé. Je me trompe?
Non, 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 t'as raison. Alors, depuis la rentrée de cette année, Il y a une obligation pour la formation initiale. Il y a un décret qui avait été publié qui rend obligatoire 28 heures d'enseignement au numérique en santé pour les étudiants qui sont entrés cette année, en première année.
Ah, c'est juste pour les étudiants, du coup, c'est pas les
oui, ça,
professionnels de
c'était
santé.
pour
Ok,
les
d'accord.
étudiants.
Ok,
Okay.
d'accord.
Donc ça, c'est une des premières bases, en fait. Et puis à l'INES, du coup, nous, il y a déjà donc, le référentiel a été publié il y a bien 2 ans. Après, tu as le temps du décret d'application, mais nous, du coup, à l'INES, on avait, quand il est sorti, remanié les formations pour pouvoir proposer ces 28 heures-là. Donc ça, c'est obligatoire pour les étudiants qui sont entrés en première année cette année. Donc ça veut dire que ceux qui sont en deuxième, troisième, quatrième, etc., n'ont pas cette obligation de formation aux 28 heures. Pour ce qui est des professionnels de santé, alors, c'est un très, très vaste sujet. Et puis, juste un petit aparté, dans ces 28 heures, n'est pas mentionné explicitement l'IA.
Oui, ok. Ouais,
C'est le
c'est
numérique,
numérique.
mais ce n'est pas l'IA. Donc
Okay.
après, c'est les universités qui mettront en place. Si elles veulent contextualiser avec l'IA, il y aura des exemples d'IA. Mais les 5 modules, il n'y en a pas un qui est dédié à l'IA spécifiquement.
D'accord.
Pour ce qui est des professionnels de santé, donc quand j'ai commencé à m'occuper des formations de l'INES, j'avais réussi parce que donc j'étais à l'époque à l'université de Bourgogne. J'avais réussi à faire référencer l'exécutif master au DPC. Donc le DPC, c'est l'obligation de formation pour les médecins, généralistes ou spécialistes. Ils ont une obligation de formation au moins tous les 3 ans. Et potentiellement, il faut passer par cet organisme qui s'appelle le DPC pour faire valider cette obligation de formation. Donc j'avais réussi à faire référencer l'exécutif master, ce qui n'était pas une chose simple parce qu'en plus.
L'exécutif master, c'est quoi? C'est le programme que vous dispensez,
Alors,
non?
l'exécutif master, oui, c'est l'exécutif master IA et e-santé qui à travers, elle a un volume horaire de 70 heures et qui permet de couvrir tous les champs de l'IA et du numérique en santé au sens large, à la fois par des notions un peu de base, mais aussi beaucoup, beaucoup de cas d'usage, d'approche éthique, juridique, et puis aussi d'accès au marché, de développement de start-up. Donc ça, c'est la plus complète qu'on ait. Et donc celle-là, alors nous, nos formations sont exclusivement à distance en e-learning. Et donc cette formation-là, j'avais réussi à la faire référencer au DPC. Et l'une des conditions pour qu'elle soit référencée au DPC, c'était qu'il fallait qu'elle colle exclusivement au référentiel du numérique en santé. Donc la base, donc voilà, pour que des professionnels puissent avoir accès à une formation comme ça, il faut que ça touche un des 5 modules du référentiel du numérique. Pour ce qui est des autres professions, il y a un organisme de financement de formation qui s'appelle le FIFPL, qui est pour les professionnels libéraux. Et je suis allée l'éplucher il y a très peu de temps. Donc pour cet organisme-là, pour une même formation, il faut qu'on la dépose autant de fois qu'il y a de professions libérales différentes.
D'accord.
Donc infirmiers, kinés, enfin toutes ortho, toutes ces professions-là. Et il faut que ça soit dans le cahier des charges. Donc honnêtement, je ne me souviens plus combien il y a de professions qui sont concernées par le FIFPL, mais on va dire quand même entre 7 et 10.
Une dizaine.
Il n'y en a que 3 professions pour lesquelles il y a du numérique au sens large dans le cahier des charges. Et dans les 3, je compte les sages-femmes pour lesquelles il y a l'informatisation du cabinet. Je pense que celle où il y en a un peu plus, c'est sur les infirmières, et notamment avec l'évolution de leur profession, avec les infirmières de pratique avancée qui accompagnent beaucoup les patients atteints de pathologies chroniques. Et il y a des applis qui permettent de la télésurveillance de ces pathologies-là. Et les kinés. Mais c'est les 3 seules professions pour lesquelles j'ai trouvé un lien avec le numérique. Et même pas spécifiquement l'IA. Pour le reste, il n'y a rien.
Ok.
Il n'y a rien.
Alors justement, c'est peut-être intéressant qu'on regarde un petit peu ensemble, Barbara. C'est quoi les cas d'usage liés au numérique et alors peut-être plus spécifiquement en plus de l'IA pour un professionnel de santé? Je te donne une vision extérieure, caricaturale volontairement, mais bon, je vais voir mon médecin, je lui parle de mes soucis de santé, il me fait un diagnostic, il me fait une prescription. Bon, très bien. L'IA, elle intervient quand là-dedans? Le numérique, il intervient comment à partir du moment où la personne c'est recevoir des mails, en envoyer, accéder au dossier médical partagé. Quel besoin il y a en plus ?
Alors, l'IA, elle est pas forcément chez les médecins généralistes. Mmh. Elle est déjà développée dans des spécialités. Enfin, il y a des spécialités où elle a plus pris l'oncologie. Mmh. Donc, dans tout ce qui est imagerie et aide à la détection sur les images
donc
médicales.
Donc là, c'est pas tant de l'IA générative, mais c'est de l'IA qui va aller sur la base en fait d'algorithmes, hein, tout simplement, aider à la détection et à la compréhension des images, c'est ça ?
C'est ça. Et l'IA est potentiellement plus performante que les médecins tout seuls pour détecter des cancers, mmh. soit aussi par exemple des fractures sur des radios. Elle aide aussi en génétique. Mais voilà, c'est vraiment l'IA. C'est pour l'instant, c'est sur des domaines plutôt spécialisés. Après, il y a l'IA générative hein, qui est aussi utilisée, mais qui est encore en balbutiement.
Alors, on va revenir à l'IA générative, mais spécifiquement sur ce cas d'usage-là. Finalement, j'allais dire, Barbara, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on ne remplace pas les médecins qui sont chargés de lire les imageries par des IA ? Et finalement, ça irait plus vite, on n'attendrait pas la saisie du compte-rendu par le médecin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une machine qui fait ça alors ?
Parce que je pense que grosso modo, c'est interdit. Hein ? Il y a l'IA Act qui se met en application petit à petit et qui supervise tout ça. Il y a aussi le fait que de toute façon, il y a besoin d'un regard humain. Hein. L'IA, c'est pas de la magie. L'IA, ça repose sur des algorithmes. C'est une masse phénoménale de données sur lesquelles les outils ont été entraînés. Et il y a potentiellement pas forcément des erreurs. Puis ça dépend encore des spécialités, mais il y a aussi des biais selon les données d'entrée. Si les données d'entrée sont pas complètes et sont mauvaises, les données de sortie ne seront pas mieux. Mmh. Donc il faut garder un regard humain. L'IA, c'est pas un expert, c'est juste un outil qui analyse en fonction de ce sur quoi on l'a programmé. Et en fait, il analyse pas l'IA. Il fait juste, à l'issue d'un programme qui lui a été donné, qui donne une réponse. Mm-hmm. Mais voilà. Donc, effectivement, il peut déceler des choses qui sont difficilement décelables à l'œil humain parce que il va travailler au niveau du pixel, voire en dessous. Mais il faut garder cet œil humain et surtout cet œil d'analyse, cette validation en fait par l'humain.
Donc en tout cas, tu disais qu'il fait au moins aussi bien que l'humain, voire mieux. Très bien. Deuxième sous-question avant que je te laisse continuer. Est-ce qu'on a une manière aujourd'hui de mesurer le fait que grâce au progrès sur la partie numérique, je mets volontairement le mot numérique et pas forcément IA parce que c'est plus large que ça. Est-ce qu'on mesure des évolutions quantitatives sur l'imagerie médicale pour considérer le fait que bah, ça s'améliore et que les détections sont meilleures qu'avant, qu'on détecte plus tôt les choses. Est-ce que ça, c'est mesuré aujourd'hui au global dans les professions ?
Alors, il y a des études hein, cliniques qui sont menées et notamment bah, celles voilà, où quand je te dis que l'IA peut faire mieux que le médecin, mais avec mm-hmm. le médecin, ou en tout cas que le médecin sans IA fait moins bien.
Oui, c'est ça.
Il y a des études cliniques qui ont été D'accord. menées là-dessus pour attester de ça. Ça, c'est clair. Enfin, à l'INES, c'est vraiment un des fondements, c'est qu'on ne parle que de choses qui ont été cliniquement étudiées, validées.
Mesurées. Okay.
Les outils, l'INES propose un score d'évaluation de solutions numériques.
Okay.
C'est des solutions numériques à visée clinique et pas à visée bien-être. Donc, il faut qu'il y ait des études qui aient été menées là-dessus. Et vraiment, quand on peut dire que l'IA améliore finalement la compétence du médecin, c'est parce qu'il y a des articles qui ont été publiés là-dessus avec des vraies études.
Ok. Bon, c'est un point très clair. Concernant spécifiquement l'IA générative, alors moi, dans mon inconscient, comme ça, dans ma faible connaissance du domaine médical, j'ai tendance à dire, bon, ok, ça aide à saisir les rapports, quoi, les synthèses d'imagerie, par exemple, non ?
Alors, il y a des outils qui sont en plus développés en ce moment où peut y avoir une consultation normale entre le médecin et son patient avec une IA qui enregistre et qui permet ensuite de faire en temps quasi réel hein, le compte rendu
Très bien.
structuré
OK.
de la consultation. Mais c'est encore des outils, enfin voilà, qui sont très 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 récents. Moi, j'en ai vu la démonstration au mois de mars, quoi. Donc, c'est vraiment très récent. Faut savoir aussi les utiliser finalement. C'est comme quand on utilise l'IA générative, hein, si on lui pose pas une question précise, on aura une réponse floue. Voilà, encore une fois, c'est pas de la magie, l'IA ou l'IA générative, hein, c'est juste de la programmation qui répond en fonction de ce qu'elle sait.
OK.
Enfin, en tout cas, de ce qu'on lui a donné pour la concevoir.
Très bien. Je regarde sur la partie, sur le site hein, de l'INES, INES France, dans les enseignements, la masterclass IA générative en santé. Je regarde un peu le programme. Je vois donc bon, intro à ChatGPT et puis les principes de base, le prompt engineering, l'utilisation de Perplexity AI. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quel cas d'usage il y a pour les professionnels de la santé avec ces outils-là, par exemple?
Alors, il y a très clairement ce qu'on vient de dire, hein, le compte
L'analyse
rendu,
du compte
l'analyse,
rendu, ouais.
voilà,
Enfin, la génération d'un compte rendu, d'une discussion entre un
la
professionnel de santé et
génération de
son
compte
patient.
rendu. Après, c'est vraiment des évolutions qui sont à faire dans les pratiques professionnelles, mais on peut imaginer énormément de choses. Cependant, il y a beaucoup de choses, et notamment au regard de l'IA Act, auquel il faut faire attention, parce que toute personne qui utilise une IA générative, même généraliste, dans le cadre d'une pratique médicale est considérée comme fournisseur d'IA au risque. Le professeur Patrick Cally, que tu recevras, a créé, par exemple, parce qu'il a dans son labo un médecin qui est aussi informaticien, ils ont créé une appli basée sur l'IA générative pour aider les enfants atteints de pathologies. Pour les aider à savoir ce qu'elles ont le droit ou pas de manger. Voilà. Mais ça, voilà, basé sur des recommandations, des préconisations, et puis potentiellement pour pallier, par exemple, si ça arrive un week-end, le fait qu'ils ne peuvent pas se référer vers un professionnel de santé pour poser la question. Ça peut servir à ça, ça peut servir aussi sur de la détection, mais voilà, avec toute mesure gardée. Et même récemment, alors quand je dis récemment, c'est que ça date de ce week-end, je suis par exemple tombée sur une revue littérature médicale américaine. Donc il n'y a pas les mêmes réglementations qu'en France. Et quand nous, en France, on se pose encore la question des usages de l'IA générative et de ce que ça peut faire sur la relation médecin-patient. Et honnêtement, ça peut l'améliorer parce que du coup, en tant que patient, on peut arriver avec une première acculturation à sa pathologie et du coup avoir de la matière pour poser des questions à son médecin. Parce que pour pouvoir poser des questions, quel que soit le domaine, il faut avoir un peu de connaissances, hein. Même quand on est en formation. Quand le prof demande est-ce que vous avez des questions, oui, mais si on n'a pas de matière première
C'est
sur
vrai.
laquelle baser sa réflexion, on ne peut pas poser de questions. Donc l'IA générative, ça peut servir à ça. Et en ce sens, ça peut renforcer la relation médecin-patient. Et un des articles que j'ai aperçu, que j'ai pas lu honnêtement, mais que, enfin, j'ai lu que le résumé, disait qu'en fait, alors eux, ils pouvaient utiliser ChatGPT hein, dans ce sens-là, mais qu'on a cette notion de consentement éclairé hein, envers le patient, où on dit que, enfin, pour tout acte, de toute façon, mais avec ou sans IA, pour un acte chirurgical, il faut donner son consentement. Et il faut, alors quand on parle de numérique et d'IA, le professionnel de santé doit informer le patient qu'il utilise ces outils-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article sur lequel je suis tombée, c'est qu'en fait, aux États-Unis, ils ont étudié le fait d'utiliser ChatGPT pour justement amener le patient à bien comprendre les termes médicaux qui étaient utilisés et qui puissent, du
Excellent.
coup, pouvoir mettre en pratique ce consentement éclairé parce qu'ils étaient partis du principe que potentiellement les Américains, alors je dis des Américains, mais c'est pas du tout c'est pas du tout condescendant, mais c'est l'article hein, qui était mentionné comme ça, de dire qu'ils avaient une acculturation aux termes médicaux qui n'était pas très bonne, que les termes médicaux peuvent être très compliqués.
Ce qui doit être
et
le cas
même,
de beaucoup de personnes, même enfin, dans d'autres pays, en France par exemple, je ne suis pas certain qu'on soit
aussi.
fondamentalement meilleur. Hein.
Et que du coup, avec un professionnel de santé qui est habitué, lui, à employer son vocabulaire technique, avec un patient en face qui n'est pas habitué à le recevoir, eh ben, l'IA générative peut aider et peut du coup permettre au patient de réellement mettre en pratique son consentement éclairé parce qu'il aura compris ce que le médecin lui dit.
Ça pose quand même la question de la confidentialité. Bon, tu l'as mis en lumière, c'est les États-Unis, c'est OpenAI, c'est ChatGPT. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui comme IA en France dans le domaine de la santé? J'imagine que l'utilisation de ChatGPT par un médecin qui va un peu loin dans la préparation de son diagnostic, ça pose question quand même, à la fois sur deux aspects, hein, d'ailleurs, à la fois sur l'aspect de l'hallucination, c'est que les IA, bien qu'ayant des garde-fous et pas mal d'éléments d'entraînement pour leur faire raconter le moins de bizarreries possible, elles peuvent dire des bêtises, ça on le sait maintenant. Et la deuxième chose, c'est dans quelle mesure est-ce que les sujets de santé qui sont abordés ne vont pas partir sur des serveurs d'une entreprise, en l'occurrence américaine, qui va digérer le truc, quoi.
Là où il faut être extrêmement prudent, c'est sur effectivement les données qu'on met dedans et rester sur de l'anonymat. Même si un médecin, c'est aussi des exemples qu'on a montrés dans la masterclass, de montrer en quoi les IA génératives pouvaient, en tout cas, sur l'importance de faire des bons prompts. Parce que si on fait un mauvais prompt, le diagnostic proposé par l'IA générative ne sera pas bon. Si
en deux mots, c'est quoi un bon prompt et un mauvais prompt? C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur, entre un bon prompt et un mauvais prompt?
Et ben, c'est la façon dont on lui pose la question, ce qu'on lui met comme contexte pour qu'il aille ensuite chercher dans ses références la façon dont il va pouvoir répondre. Et donc, si la question elle n'est pas précise, elle est mal formulée, la réponse sera à hauteur de la question qui a été posée. Pour petite blague à part, je m'amuse moi parce que ça me fait suer de passer mes week-ends à faire les devoirs de mes enfants. Et l'autre fois, j'ai ma fille de troisième qui est venue avec un devoir de trigonométrie. C'est pas du tout ma spécialité. J'aime bien les maths, mais pas celle-là. Je lui ai mis texto, hein. J'ai recopié la consigne de l'exercice, la question de l'exercice, et j'ai testé ChatGPT, Perplexity et Claude, je crois. Tous les trois se sont plantés dans la réponse. Et du coup, j'ai pu échanger, puisque tu le connais, avec Stéphane à ce sujet-là. Et en fait, j'ai envoyé l'exemple à Stéphane qui lui a mis, lui en plus, le support du dessin. Et avec le support du dessin, l'IA a été capable de répondre. Mais juste sur la formulation écrite, aucune des trois n'a été capable de donner la bonne réponse. Donc, ce qui montre qu'en fait, c'est la façon dont est formulée la question qui va entraîner une bonne réponse ou pas. Et la question de l'exemple de l'exercice de trigonométrie, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. C'est le prof qui avait donné comme ça dans le devoir qu'ils avaient à faire à la maison, la consigne qui était rédigée comme ça. Ce qui montre en fait que finalement, parce que certainement que la question était formulée de façon un peu alambiquée, comme on a l'habitude de le faire en France, qui fait que les IA se sont perdues en route en fait, ou alors c'était pas suffisamment explicite. Donc la différence entre un bon prompt et un mauvais prompt, c'est vraiment l'explicitation et la contextualisation. Donc pour en revenir à un diagnostic de médecine par exemple. Il faut rester anonyme, c'est-à-dire que pas de nom, pas de prénom, pas d'âge, toutes ces informations de base qui pourraient permettre de reconnaître une personne. Après, le médecin peut très bien poser les symptômes, le contexte, de la façon la plus précise qu'il a l'habitude de faire, pour ensuite avoir un diagnostic qu'il jugera ou pas cohérent.
Et ça, est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui de mesurer, au même titre que tu me l'expliquais avant sur l'analyse de l'imagerie médicale, à quel point c'est pertinent, à quel point ça aide? Est-ce qu'on est certain que ça apporte plus de bénéfices que de risques?
Alors honnêtement, je ne sais pas ce qui est sorti, et notamment au niveau des IA génératives, et notamment par rapport au sol européen et français, parce que même s'il y a des choses qui sortent aux États-Unis, ce n'est pas applicable. Sur le sol européen et français. Enfin, encore une fois, par rapport aux contraintes que nous on a, etc. Donc, il faut garder cette mesure-là. Donc, je ne sais pas honnêtement ce qui sort actuellement en études cliniques, il en sort, hein. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui est sorti et qui est applicable en France.
J'ai été surpris, je dois être honnête avec toi, quand j'ai regardé le programme des enseignements, et probablement que c'est pas exhaustif, mais que justement, on parle d'IA qui sont un peu des IA de référence des technologies américaines, qui sont finalement des outils très connus du grand public. Est-ce que ça veut dire que ce sont des outils très pertinents pour les professionnels de la santé, ou est-ce que c'est juste une manière d'acculturer à ce sujet-là? Question sous-jacente, est-ce que sont abordées des IA, par exemple, en local et qui pourraient être spécifiquement entraînées, sans aller jusqu'au fine-tuning, mais jusqu'à la personnalisation avec des master prompts pour des usages en santé? Ou est-ce qu'il y a également des usages de type RAG, donc avec des éléments d'information de référence qui sont branchés sur les IA spécifiquement dans le domaine de la santé? En gros, c'est quoi les outils qui sortent des outils génériques de ce type?
Eh ben, alors honnêtement, je sais pas. Je sais qu'il existe, hein, des entreprises qui font avec des IA en local. Nous,
OK.
on a, alors sur le DU d'IA génératif, donc auquel l'INES participe, mais qui est porté par plusieurs universités, dont l'université de Bourgogne. Il y a des exemples d'usage d'IA générative, par exemple pour des personnes qui sont en traitement de cancer et avec les troubles cognitifs que ça peut entraîner, et des IA génératives qui sont utilisées pour ça. Honnêtement, je pense qu'elles sont basées sur des IA locales, celles-là. Mais ça reste encore des exemples à la marge. Enfin, l'IA générative, clairement, elle est en développement actuellement, quoi. Donc, c'est vrai que les gros, comme les gros Américains qu'on connaît, développent parce qu'ils ont les moyens humains, financiers, de développer et de déployer rapidement. Pour la réglementation française, il serait effectivement beaucoup plus pertinent, enfin, et nécessaire de développer avec des IA locales, mais encore faut-il avoir les moyens humains et financiers de le faire, quoi.
Est-ce que tu as des grands messages que tu voudrais faire passer ou des visions de ce qui pourrait arriver dans le domaine du numérique, évidemment pour le domaine de la santé, dans le domaine de la e-santé? Est-ce que tu as comme ça un cheval de bataille que tu aimerais partager qui concernerait peut-être les professionnels de santé, mais plus largement qui pourrait intéresser aussi les auditeurs et les auditrices, un sujet qu'on n'a pas abordé dans l'épisode?
Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Le fait de dire que ça reste un outil, que c'est qu'un outil, et c'est qu'à la base, enfin moi, ça a toujours été mon approche, c'est de dire que ce ne sont que des machines qui font ce que l'homme leur a demandé de faire. Et que ça soit avec ou sans IA. Alors je pense qu'avec les IA, honnêtement, alors, je ne suis pas hyper spécialisée, hein, d'un point de vue technique. Et certainement que les IA peuvent faire des choses pour lesquelles l'homme ne les a pas programmées, hein. Je
Oui, il y
pense,
a des capacités émergentes qui
voilà.
sont assez intéressantes à
Ou
décortiquer derrière.
peut-être à un moment sur un programme, un algo, quelque chose qui a mal été programmé et qui fait que du coup elle va partir sur d'autres choses. Mais ça reste à la base des outils, des machines. Comme n'importe quel outil, elles peuvent produire de très très bons effets, comme elles peuvent en produire de très très mauvais, hein. Je suis pas la première à le dire, mais un couteau, ça peut servir aussi à tuer.
Évidemment.
Donc ça reste un outil. Il faut garder un œil humain dessus, ne pas croire. C'est pas, oui, c'est pas. Il faut surtout pas personnifier ou faire de l'anthropomorphisme avec les IA.
OK.
C'est pas des personnes, c'est des machines. Des machines qui ne font que ce pour lesquels elles ont été programmées. Et surtout, et moi aussi, c'est parce que je suis quand même spécialiste du numérique en pédagogie, et j'aime bien montrer, et on accuse souvent, hein, le numérique de tous les maux. Donc que ça soit en pédagogie ou en santé, c'est pareil. Mais voilà, derrière, il y a toujours des humains. Et ce qu'on reproche au numérique, c'est exactement la même chose avec l'humain. Les biais qu'on reproche actuellement sur les IA, hein, et les algorithmes, etc., c'est parce que l'humain a les mêmes biais, sauf qu'on ne parle pas de biais, on parle de culture, ou on parle de. Enfin, pour aller même peut-être sur des terrains un peu plus glissants, enfin, je veux dire, Le racisme existe chez les humains. Il n'y a pas besoin d'avoir des algorithmes qui n'ont pas été fournis avec des IA. Enfin, si tu prends l'exemple d'une maladie dermato, les problèmes qui sont rencontrés actuellement, c'est que beaucoup des IA ont été alimentés par des imageries, par exemple
Avec
sur
la
des
peau
peaux blanches
blanche.
et pas forcément sur des peaux noires. Mais tu retrouves la même chose avec des IA qui ont été des IA génératives, dont les langues de base sont principalement les plus grandes langues parlées dans le monde, donc l'anglais, le français, l'espagnol, des choses comme ça, mais des langues beaucoup moins répandues en Afrique ou dans les pays d'Asie, eh ben on va pas les retrouver dans les IA génératives. Et c'est pas un problème d'IA, c'est un problème d'humain à la base. Et tous les problèmes dont on accuse les IA, en fait, sont des problèmes humains. Et récemment, tu vois, bah, pour rebondir là-dessus, je lisais une enquête qui disait que, par exemple, des patients qui se retrouveraient face à une erreur humaine ou à une erreur machine pour une même question, un même problème, sont beaucoup moins tolérants avec la machine qu'avec l'humain. C'est comme si on se disait, bah, c'est normal, c'est un homme, il fait des erreurs, quoi. Enfin, quand je dis un homme, c'est pas homme-femme, hein, c'est un être humain. Mais pour moi, c'est la même chose, en fait. Enfin, pourquoi on reproche plus de choses à la machine qu'à l'humain alors que les biais sont les mêmes?
J'ai presque tendance à m'interroger aussi là-dessus, et on n'aura probablement pas la réponse, mais si les personnes qui critiquent des retours problématiques auprès de la machine plus facilement qu'auprès d'humains ne le font pas aussi, pas seulement parce que ce sont des machines, mais aussi parce que c'est via des écrans. En fait, j'arrive à me demander si les personnes n'auraient pas le même comportement avec des consultations à distance, tu vois, en ligne. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Mais oui, c'est intéressant ce que tu soulignes, effectivement. Et je pense que les comportements liés à l'humain sont partie prenante dans ce qu'on peut critiquer ou encenser, du coup, hein, dans le numérique et dans l'intelligence artificielle de manière générale. C'est hyper intéressant.
Pour rebondir là-dessus, par exemple, j'ai pu échanger avec une personne une fois qui avait mis sur LinkedIn qui trouvait un peu regrettable que des personnes peut-être avec une santé mentale un peu fragile, des choses comme ça, trouvaient plus confortable de discuter avec des IA génératives ou en tout cas que c'était en train de prendre, hein, ou voilà. Et je lui dis bah ouais, mais au moins avec ça t'as pas le risque de te faire insulter comme tu peux l'être sur les réseaux sociaux. T'as pas tous ces risques-là de harcèlement. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas avec les IA génératives, quoi. Donc finalement, c'est pas. Cette idée d'écran, oui, en fait, elle est dans tous les sens parce que l'écran, c'est effectivement quelque chose qui se met entre et qui, pour certains, leur donne le droit d'insulter les personnes en ligne ou de faire du harcèlement. Mais finalement, pour d'autres, et avec les IA génératives, ça va être aussi peut-être un endroit où se réfugier de ces choses-là. Et les IA génératives sont faites de façon où c'est tout le temps la bienveillance quelque part qui émerge en premier. Enfin, moi, c'est ce qui m'avait choqué dans mes, enfin, interpellé dans mes premières utilisations de ChatGPT. C'est qu'en fait, c'était toujours du positif d'abord dans la réponse.
Ce qui est d'ailleurs parfois agaçant quand c'est trop lourdement mis en avant. D'ailleurs, il y a OpenAI qui a retiré là un de ses modèles de dispo dans ChatGPT parce qu'il était un peu trop justement enthousiaste, bienveillant, il en faisait un peu des caisses, quoi. Mais oui, tu as raison, c'est une tendance qui est plutôt importante et qu'on ressent assez vite. Il y a toujours ce réflexe, j'ai l'impression, des personnes qui découvrent ce type d'outil. Probablement beaucoup les adolescents, d'ailleurs, qui assez vite ont envie de le titiller, quoi. De voir dans quelle mesure est-ce qu'ils sont obligés de se conformer aux règles de vie en société avec des machines. Et très vite, ils ont cette tentative d'aller les provoquer, pas forcément de les insulter d'ailleurs, mais de les prendre un petit peu de haut, quoi. Et c'est intéressant aussi de voir que ces machines, justement, ne vont pas dans la surenchère, n'ont pas notre émotivité à titre humain et vont pas entretenir ça. Et finalement, ça lasse. C'est marrant, hein, de voir d'ailleurs que ça pourrait être un bon enseignement de bonnes pratiques d'humain en ligne quand on interagit et peut-être quand on est, si on peut, hein, c'est pas toujours facile, mais interpeller, voire insulter, c'est de faire écran, justement, et de pas réagir et pas d'être dans la surenchère. Mais bon, c'est difficile, hein, ça demande quand même vachement de self-control, je pense. Tout le monde n'en est pas forcément capable.
Et puis après, il y a aussi l'exemple récent, hein, je crois, d'une IA qui est devenue raciste, extrêmement, extrêmement rapidement, parce que de toute façon, il y a un problème de programmation à la base, mais il y a eu un exemple récent là-dessus et ils ont été obligés de l'enlever assez rapidement.
On l'avait couvert effectivement dans ta café, ouais, et ça avait été retiré très rapidement, exactement. C'est quoi pour toi l'avenir dans les années là qui sont devant nous en matière de numérique et ou d'IA selon toi pour le domaine de la e-santé? Est-ce que maintenant, ça y est, là, les bases, les panoramas sont posés, maintenant il faut développer les usages? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver, qui vont encore bouleverser? Je te cache pas que dans ta café, semaine après semaine, on parle de nouveaux modèles et on se dit, mais à chaque fois, il y a de la surprise. On arrive à faire de la conception 3D, la vidéo avance très, très vite. Donc moi, je me dis qu'on est encore dans une phase d'émulsion comme ça et de balbutiement technologique. C'est quoi, toi, ta perception? Est-ce qu'il faut digérer les choses pour le domaine de la santé telles qu'elles sont là? Ou est-ce que les choses vont encore évoluer et on ne sait pas dans quelle mesure?
Je pense que on peut pas savoir ce que technologiquement va se développer et il faut s'attendre à rien et à tout en fait. C'est-à-dire que tu peux pas on peut pas se dire bah là c'est fini, ils iront pas plus loin, on ne sait pas. Mais c'est clairement sur les usages, les pratiques et encore une fois, enfin moi quand j'ai débuté avec le numérique en formation. Mes références, c'était le Québec et la Belgique, parce que j'estimais qu'en France, et on était au début des années 2000, j'estimais qu'en France, on avait 15 ans de retard. Et 15 ans de retard n'étaient pas forcément technologiques, hein, c'était des retards de pratique. Et quand je suis tombée du coup dans le numérique en santé, donc il y a 2 ans, hein, notamment avec Fabrice et avec l'Inès, et où là, bah, moi, j'ai commencé à aller fréquenter des salons autour du numérique en santé. J'entendais les discours de ça va remplacer le médecin. Et là, je me suis dit, OK, ça ne me fait pas peur parce que c'est des discours que j'entendais il y a 20 ans, quand le numérique est entré en pédagogie, où on disait ça va remplacer les profs. En revanche, ce qui me fait peur, c'est que la société française, elle n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là pour que 20 ou 25 ans après, on dise toujours que la machine a risque de remplacer l'humain.
Ouais, dans les réflexions, finalement, on sent qu'il n'y a pas eu forcément. Peut-être que dans les années à venir, il pourrait y avoir une évolution quand même de cet ordre. Peut-être qu'on est en train de constater des évolutions. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, sur la base du constat que tu peux faire, je partage qu'on peut être effectivement très en retard dans notre perception des choses. Merci beaucoup, Barbara. C'était hyper intéressant qu'on puisse échanger ensemble. Est-ce que tu peux rappeler, informer nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne si on veut échanger avec toi, compléter les discussions qu'on a pu avoir là durant l'épisode avec des interpellations individuelles?
Bah, j'ai un profil LinkedIn. Si les gens veulent me laisser un message en privé, il n'y a pas de souci. Et puis après, pour tout ce qui concerne l'INES, il y a notre site internet sur lequel il y a l'adresse de contact aussi, sur laquelle je peux éventuellement répondre. Mais c'est les seules choses que j'ai en ligne.
Eh ben, c'est largement suffisant. Merci beaucoup, Barbara. Donc, Barbara Mathian, directrice. C'est quoi ton titre exact auprès de l'INES?
Directrice des opérations.
Directrice des opérations. On te retrouvera donc sur LinkedIn si on veut pouvoir interagir avec toi. Merci infiniment d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si jamais vous avez apprécié cet épisode, si jamais vous avez envie d'en savoir encore un petit peu plus sur la tech et d'avoir chaque semaine une information sourcée et qu'on espère la plus agréable à écouter possible, je vous invite à vous abonner au podcast Tech Café dans votre application de podcast habituelle, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify ou plein d'autres. Vous pouvez aussi écouter les épisodes sur techcafé.fr. Et puis, si jamais vous êtes convaincu par la formule, si jamais vous pensez que Tech Café mérite un petit peu de votre temps et de votre capacité d'attention, si jamais ça vous rend un véritable service au quotidien, si jamais ça vous manquerait de ne plus avoir Tech Café qui arriverait chaque semaine, je ne peux que vous inviter à aller jeter un coup d'œil sur Patreon, patreon.com/techcafé. Patreon, c'est une plateforme de financement participatif. Vous pouvez vous abonner pour quelques euros par mois et puis obtenir en contrepartie un flux qui vous permet d'écouter le podcast sans la pub, mais aussi d'avoir la conviction de soutenir durablement un contenu utile, pertinent et que vous ne retrouvez pas ailleurs. Et puis, vous avez en plus un espace de contact privilégié avec moi pour qu'on puisse discuter plus en détail, que ce soit du podcast ou du fond des sujets abordés. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.